Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le président chinois Xi Jinping est arrivé en France ce dimanche pour sa première visite officielle depuis la crise du Covid-19. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre cruciale avec Emmanuel Macron et pourquoi fait-elle autant débat? Exceptionnellement, pendant 5 jours, Hugo prend quelques jours de repos, donc je prends le relais avec le reste de l'équipe de journalistes. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Le président chinois Xi Jinping a donc atterri à Paris ce dimanche après-midi pour sa première visite en France depuis 2019 et sa troisième depuis qu'il est devenu président de la République populaire de Chine en 2013. A noter que l'année dernière, Emmanuel Macron s'était rendu en Chine pour une visite officielle. Alors Xi Jinping a d'abord été accueilli ce dimanche par le Premier ministre Gabriel Attal. Ce lundi, il était à Paris avec Emmanuel Macron mais aussi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, l'une des principales instances de l'UE. Et ce mardi, les deux dirigeants se rendront dans les Hautes-Pyrénées, là où Emmanuel Macron passait ses vacances chez sa grand-mère quand il était enfant. Mais alors, quels sont les enjeux de cette rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron? Déjà, il faut savoir que cette année marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et pour l'occasion d'ailleurs, une cérémonie a eu lieu ce lundi après-midi aux Invalides. Mais en dehors de cette célébration, la venue de Xi Jinping en France a pour objectif de renforcer la coopération entre la France et la Chine. Dans une tribune publiée ce dimanche dans Le Figaro, Xi Jinping expliquait vouloir, je cite, « faire progresser le partenariat global stratégique entre les deux pays ». Il disait notamment que son pays serait, je cite, « heureux d'avoir davantage de produits agricoles et cosmétiques français de qualité sur le marché chinois ». De son côté, la France espère des investissements chinois dans le secteur des technologies de pointe, comme les véhicules électriques, alors que le déficit commercial de la France vis-à-vis de la Chine a atteint les 40 milliards d'euros en 2023. Concrètement, ça veut dire que la France a dépensé 40 milliards d'euros de plus pour importer des biens de Chine qu'elle n'en a gagné en exportant vers la Chine. Mais justement, sur la question des voitures électriques, il y a un sujet qui fait débat. En fait, en septembre, Ursula von der Leyen a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques. D'après elle, je cite, « les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives chinoises, ce qui causerait préjudice aux entreprises européennes ». Et oui, car les entreprises européennes fabriquent elles aussi des voitures électriques et peuvent avoir du mal à concurrencer les prix plus bas des voitures chinoises. Alors le ministère chinois du commerce avait prévenu que cette enquête, largement soutenue par la France, aurait un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Union européenne. Et justement, en janvier, les autorités chinoises ont entre guillemets riposté en ouvrant à leur tour une enquête, cette fois-ci sur une infraction supposée à la concurrence qui cible la filière française du cognac. Cette filière est ultra dépendante de l'export et la Chine est d'ailleurs son deuxième marché après les États-Unis. Pour Marc Julien, le directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales, cette enquête est un message d'intimidation à destination de la France. Bref, ce sujet était donc au programme des discussions de ce lundi entre Xi Jinping et Emmanuel Macron, ainsi qu'avec Ursula von der Leyen, qui a rencontré le président chinois donc. Mais en dehors des relations entre la France et la Chine, quels autres sujets étaient au programme? Eh bien, les deux dirigeants avaient aussi prévu de parler des conflits internationaux et notamment de la guerre en Ukraine. Dans sa tribune publiée dans Le Figaro ce dimanche, Xi Jinping a affirmé que la Chine, je cite, n'était pas à l'origine de cette crise et qu'elle n'était pas participante au conflit. Il a aussi dit comprendre le bouleversement qu'engendre la crise ukrainienne pour les Européens et espérer que la paix et la stabilité reviendront rapidement en Europe. Cependant, la Chine est perçue comme le seul acteur capable de peser sur la Russie. En effet, depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Chine est devenue le premier partenaire stratégique et commercial de la Russie et les échanges entre les deux pays ont progressé de 25% entre 2022 et 2023. La Chine est notamment devenue le principal partenaire partenaire énergétique de la Russie en important du pétrole et du gaz russe, par exemple. Le président russe Vladimir Poutine est d'ailleurs attendu en mai à Pékin, la capitale chinoise. L'Élysée souhaite donc, je cite, « demander à la Chine d'utiliser les leviers qui sont les siens pour faire évoluer la position russe ». Pendant ces deux jours, Emmanuel Macron et Xi Jinping devraient aussi parler du conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza. Dans sa tribune publiée dans Le Figaro, Xi Jinping indiquait d'ailleurs être préoccupé par ce sujet et être pour la création d'un État palestinien indépendant. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi la visite de Xi Jinping est-elle critiquée ? En fait, plusieurs ONG, comme Human Rights Watch, ont demandé à Emmanuel Macron d'évoquer les droits humains avec Xi Jinping. Ce dimanche, d'ailleurs, plusieurs manifestations contre la venue de Xi Jinping ont été organisées à Paris. Environ 2000 personnes, majoritairement issues de la communauté tibétaine, se sont rassemblées pour dénoncer sa visite, alors que le gouvernement chinois contrôle la région du Tibet depuis 1950. Un rassemblement de Ouïghours a aussi été organisé ce dimanche. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, il s'agit d'une minorité musulmane persécutée en Chine. Depuis 2017, plus d'un million de Ouïghours ont été transférés dans des camps de rééducation, qui seraient en réalité des camps de travail forcé, selon plusieurs ONG internationales. D'ailleurs, en janvier 2022, l'Assemblée nationale française a adopté une résolution dénonçant leur génocide par la Chine. Pour la sociologue Dilnur Reyhan, fondatrice de l'Institut Ouïghour d'Europe, cet accueil par le président français du bourreau du peuple ouïghour est incompréhensible et un encouragement pour que la Chine continue ses crimes jusqu'au bout. Enfin, ce lundi, l'ONG Reporters sans frontières a organisé une action pour protester contre la visite de Xi Jinping, alors que 119 journalistes sont détenus par le régime chinois, selon ces chiffres. Voilà donc pour les enjeux de la visite de Xi Jinping en France, qui se rendra ensuite en Serbie, puis en Hongrie du 8 au 10 mai. On suivra ça, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref.
Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Israël a commencé ce lundi à évacuer temporairement près de 100 000 personnes qui se trouvaient à l'est de Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, qui abrite 1,2 million de Palestiniens, soit la moitié de la population de Gaza, selon l'ONU. Les populations concernées sont appelées à rejoindre des zones humanitaires, des recommandations envoyées via des appels de l'armée israélienne, mais aussi des SMS, des messages vocaux ou encore des cartes géographiques leur expliquant où se rendre. Alors plusieurs organisations sont opposées à cette opération, dont l'agence de l'ONU, l'UNRWA, qui est chargée d'aider les réfugiés palestiniens. Elle a annoncé son intention de rester sur place et a déclaré, je cite, qu'une offensive israélienne à Rafah signifierait davantage de souffrance et de mort parmi les civils. Depuis plusieurs mois, l'armée israélienne veut rentrer dans la ville de Rafah, qu'elle considère être le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Parallèlement à ça, les négociations entre le Hamas et Israël ont pris fin ce dimanche sans qu'un accord soit trouvé, comme l'a annoncé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux camps continuent de camper sur leur position, s'accusant mutuellement d'empêcher toute trêve. A noter par ailleurs que Benjamin Netanyahou a annoncé la fermeture de la chaîne qatari Al Jazeera suite à un vote unanime de son gouvernement. Le média est accusé par Israël d'être un organe de propagande du Hamas. La chaîne a nié ces accusations et a dénoncé une censure. Deuxième actu, en France, plusieurs blocages ont eu lieu dans des lycées afin de soutenir la cause palestinienne et les universités déjà mobilisées. Ces actions font suite à l'appel de l'Union syndicale lycéenne qui, ce vendredi, avait appelé au blocus des lycées partout en France ces lundis et mardis. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé dans le journal La Tribune dimanche et a condamné, je cite, avec la plus grande fermeté, ces mouvements qui empêchent le débat, selon lui. Il s'est dit favorable à l'évacuation des manifestants par les forces de l'ordre dans les universités bloquées à la demande des établissements. Troisième actu, le gouvernement a lancé ce lundi des assises de lutte contre l'antisémitisme, donc la hausse des violences à l'égard des personnes juives. Plusieurs associations de lutte contre le racisme, comme la LICRA ou des représentants de cultes, ont été conviés ce lundi par la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Le but de ces assises, selon le gouvernement, c'est de reconnaître l'antisémitisme tel qu'il est et trouver des solutions afin de lutter face à ce phénomène. Faut savoir que le nombre d'actes antisémites a presque quadruplé en 2023 en France, avec 1676 actes recensés selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et du CRIF. Cette hausse a notamment été observée depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël et la riposte d'Israël à Gaza. Selon une enquête de l'IFOP, 35% des 18-24 ans ont le sentiment qu'il est normal de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël. Quatrième actu, toujours en France, deux hommes ont été tués par balle ce dimanche à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les victimes étaient connues des services de police pour violence et trafic de stupéfiants et le ou les suspects ont pris la fuite et n'ont pas été retrouvés. En tout cas, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée. Les deux hommes ont été tués à quelques kilomètres du lieu d'une autre fusillade ce vendredi qui a fait un mort et 6 blessés. Pour l'instant, il n'y a aucun lien entre les deux affaires selon les autorités, mais ces règlements de compte s'inscrivent dans un contexte de guerre entre groupes criminels. Selon la préfecture de police, ces fusillades seraient liées aux opérations PlaceNet XXL pour lutter contre le trafic de drogue dans plusieurs villes de France, dont Toulouse, Marseille et donc Sevran. Cinquième actu, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche en France pour dénoncer la montée de la transphobie, donc la discrimination et la haine envers les personnes transgenres. L'objectif de ces manifestations était également de défendre le droit à disposer librement de son corps. Parmi les revendications des manifestants, il y a notamment l'abandon d'une proposition de loi qui est portée par le groupe de droite Les Républicains et qui vise notamment à interdire des traitements hormonaux utilisés lors de transitions de genre. Ils y voient un retour des thérapies de conversion, ce que les auteurs du texte démentent. Les thérapies de conversion, qui sont interdites depuis 2022, visent à traiter des personnes homosexuelles pour leur faire renoncer à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Les manifestants ont dénoncé également la publication et la promotion du livre Transmania, qui se présente comme une enquête sur les dérives de l'identité transgenre. De leur côté, les deux auteurs se sont défendus de toute transphobie. Autre actu, le présentateur et écrivain français Bernard Pivot est mort ce lundi à l'âge de 89 ans à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris, a annoncé sa fille Cécile Pivot à l'AFP. Il était notamment connu pour sa passion de la littérature. Pendant sa carrière, il a d'ailleurs animé les émissions littéraires Apostrophe et Ouvrez les guillemets, a été le chef du service littéraire du Figaro et a été le président de l'Académie Goncourt entre 2014 et 2019, cette institution littéraire française qui décerne chaque année le prix Goncourt, l'un des prix les plus prestigieux de la littérature française. Et on finit avec cette actu, le jeu télévisé de France 3, Des chiffres et des lettres, s'arrêtera à la rentrée 2024 après plus de 50 ans d'existence, a annoncé le directeur des antennes de France TV au journal La Tribune Dimanche. La faute à une faible audience alors que l'émission était diffusée uniquement le week-end depuis septembre 2022. Alors l'émission sera remplacée par la version télé du jeu des 1000 euros de France Inter le samedi et le dimanche. Des chiffres et des lettres a été créé en 1965 sous le nom Le mot le plus long et il était le jeu télévisé le plus ancien encore diffusé en France.
Merci beaucoup Léa pour les actualités en bref. Comme je vous le disais, donc cette semaine, Hugo est absent mais il revient la semaine prochaine. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et à demain.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.